Merci d'être avec nous pour votre début de soirée, 19h23. On va parler de hockey au cours des prochaines minutes avec celui qui dirige la rédaction du magazine web athlétique de Montréal, athlétique.com, nul autre que Marc-Antoine Godin, avec qui nous renouons avec grand plaisir aux amateurs de sport. Bonsoir Marc-Antoine.
Bonsoir Mario, comment vas-tu?
Ah, ça va très très bien, content de te retrouver. Je pense que les gens vont être contents qu'on commence tranquillement à parler de hockey, comme tu l'as fait toi-même dans tes récents articles, à éplucher là, de fond en comble les défis qui attendent chacun des joueurs du Canadien. Vraiment une belle analyse position par position. Et c'est évident qu'on va pas faire ensemble à la radio là, de façon aussi pointue que tu l'as fait sur athlétique.com. Mais si on y va avec les principaux défis ou en fait les joueurs dont une bonne ou une mauvaise saison pourrait avoir une grande influence sur le classement final du Canadien, comme par exemple j'ai envie d'entrée de jeu de te parler de Jonathan Drouin en attaque. Il y a des gars qui ont surpris, Domi qui est arrivé avec une belle contribution l'an passé, il y a des jeunes dont on espère un peu plus de production, mais il n'y a pas de garantie dans le cas de Kotkaniemi. On ne sait pas si Poehling et les autres vont percer l'alignement, mais on sait une chose, c'est que si Jonathan Drouin produit davantage cette année, ça va aider probablement le jeu de puissance et son équipe en général.
Clairement, clairement. Puis c'est drôle parce que tu parles du jeu de puissance. Jonathan Drouin était considéré jusqu'à l'an dernier comme étant un spécialiste du jeu de puissance, un gars qui était capable d'agir en quelque sorte comme corps arrière à partir du mur, que ce soit le mur gauche ou le mur droit. Et puis l'année dernière, ben il n'a pas été en mesure finalement de faire des flamèches. On avait souvent l'impression que l'avantage numérique, à chaque fois que ça fonctionnait pas, ce qu'on cherchait comme solution, c'était où est-ce qu'on peut déplacer Drouin. On dirait que c'était toujours ça l'optique. On va le mettre le long de la ligne du but, le long du mur, on va l'envoyer à la pointe, on le bougeait. Puis c'était toujours bouger Drouin. Probablement ce serait bien pour le Canadien s'il pouvait réussir à avoir un rôle un peu plus régulier sur l'attaque à 5 puis l'aider à redémarrer. Mais écoute, c'est drôle parce qu'il y a eu il a tellement terminé avec avec le bonnet d'âne Jonathan Drouin la saison dernière, mais il faut pas oublier que rendu au début du mois de février, avant que tout vraiment s'écroule dans son cas, il était quand même en route vers une saison de 68 points. Mm-hmm. Et si tu dis, là, je dis 68 points dans les 55 premiers matchs, s'il avait maintenu ce rythme-là durant toute la saison, je suis sûr que les gens se seraient très bien accommodés d'une saison de 68 points de la part de Drouin, malgré certaines lacunes au plan défensif, entre autres.
Oui, tu as absolument raison. Quand on s'en tient au stade, c'est vrai qu'il y a des beaux chiffres. Ça aurait pu être des plus beaux chiffres encore, mais je pense que ce qu'on souhaite voir, puis même si les chiffres sont pas tellement différents, et corrige-moi si tu n'as pas la même perception que moi, ce que je souhaite, puis j'ai demandé à Jonathan lundi dernier à l'émission qu'on faisait au tournoi de Serge Chavard, s'il se sentait en mesure de tirer les autres vers le haut. Ce que je voulais dire, c'est de prêcher par l'exemple à tous les niveaux, vraiment un engagement supérieur et peut-être aussi de se décourager moins vite ou de se fâcher moins vite quand ça tourne pas comme il veut, parce que ça aussi, on le voit de sa part.
Oui, absolument. Une frustration. Moi, ça m'a frappé depuis son arrivée à Montréal, le nombre de fois où Jonathan a fait référence à ses années dans le junior. Il semble regarder ces années-là en disant, ben là, c'est les années où j'étais en mesure vraiment d'étaler mon talent. Et il garde ces années-là dans son cœur en se disant, ben j'aimerais ça redevenir le joueur que j'étais dans le junior. Et à chaque fois qu'il y a des embûches ou qu'il y a des moments dans la Ligue nationale des situations qui font pas son affaire, tu sens une certaine impatience de dire, voyons, comment ça se fait que je suis pas à même de pouvoir reproduire ce que je faisais dans les niveaux précédents. Et ça va. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, ben là, c'est parce qu'il travaille pas assez fort. Il travaille fort, Jonathan Drouin, mais je te dirais qu'il devrait probablement apprendre à travailler mieux, à gérer plus efficacement son énergie, puis là où il se déploie. Puis j'ai l'impression que c'est un gars aussi qui gagnerait à prendre aussi des meilleures décisions que ce soit dans la relance de l'attaque, dans la façon dont il décide de couvrir un adversaire. Il y a beaucoup d'espace à l'amélioration dans le cas de Jonathan Drouin. Et tu avais raison de le mentionner au début du bloc en disant que c'est le genre de gars qui pourrait vraiment changer la fortune du Canadien. Mais moi, je me suis pas placé des attentes trop élevées à son endroit. Il a passé l'essentiel du dernier tiers de la saison dans les troisième et quatrième trios de l'équipe. Alors, s'il arrivait au moins à retrouver une place sur le trio de Max Domi, ou encore développer une certaine chimie avec Jesperi Kotkaniemi, ce serait formidable, mais au prix qui est payé, tu souhaites que ce soit un attaquant top 6 au sein de l'équipe.
Je ne sais pas si c'est sur athletic.com, il y a justement quelqu'un qui pose la question. Je ne sais pas où j'ai lu ça aujourd'hui, Marc-Antoine, ça va peut-être te revenir, mais aujourd'hui ou hier, il dit, faut-il revoir nos attentes à la baisse dans le cas de Jonathan Drouin? Tu soulèves un peu le point de par ta dernière affirmation, puis c'est un angle fort intéressant, puis tu parles d'énergie également. Puis il y a un aspect qui a attiré mon attention dans tes articles et tes propos sur chacun des joueurs, c'est justement la gestion de l'énergie d'un Brendan Gallagher. Je ne sais pas si on peut amener... Jonathan ne deviendra jamais un Brendan Gallagher, mais si tu penses que, mettons, il donne trop de minutes pour ce qu'il peut donner à fond la caisse, peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qu'on fait avec Gallagher?
Ben, écoute, chez le Canadien, il y a le département de la science du sport, de la performance sportive que gère Pierre Allard, qui a développé pour chacun des joueurs un temps de glace optimal qui est fait en fonction du calcul des énergies qui sont dépensées, de leur masse corporelle, etc. Tout un paquet de données. Et les entraîneurs du Canadien suivent ça, ils en tiennent compte dans la façon dont ils utilisent leurs joueurs. Alors, pour chaque joueur, tu as un temps, tu te dis, à l'intérieur de cette fenêtre-là, le gars, il va être capable de nous en donner au maximum. Alors, Jonathan Drouin a son temps, quoique au niveau du mérite, c'est pas sûr qu'il y a bien des soirs l'année dernière où il n'a pas atteint son temps optimal. Mais dans le cas de Gallagher, c'est le point que je soulevais, c'est qu'il y a bien des gens qui disent, ben, il a marqué 33 buts, il serait capable de jouer plus qu'il fait, il est seulement à 16 minutes par match. Mais sauf qu'il était le premier à m'admettre à la toute fin de la saison, et si je joue plus, je vais perdre en efficacité. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de contenir le plus possible son temps de glace pour s'assurer d'aller presser le citron au maximum, puis de faire en sorte qu'il tire pas la langue à la fin de la saison. Mm-hmm. On limite son temps en avantage numérique également. Mais ça, c'est très, très c'est très pointu. On est rendu loin dans la façon dont on gère le temps de glace des joueurs. Mais moi, j'espère que Brendan Gallagher, qui souhaiterait en avoir plus, c'est un gars qui travaille très fort à l'entraînement. J'espère que son entraînement estival va lui permettre peut-être d'aller chercher justement une minute de plus, peut-être en temps de glace cette saison, ou peut-être deux, mais aller chercher un petit peu d'effort intensif maximal là, qui pourrait lui permettre quand même de continuer sur sa belle lancée, parce que quand on regarde sa production de l'année passée, en fait, des dernières années, tu te dis, hey, on en prendrait donc plus encore.
Hey boy! Et on espère qu'il va déteindre sur plusieurs joueurs dans la fougue et l'attitude qu'il affiche. Incontournablement, en tout cas, il est dur à contourner, je trouve, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux liés à la présence et à la performance de Jonathan. Puis c'est toi qui as posé la question en début de paragraphe sur Jonathan. Est-ce préférable de rabaisser les attentes à son endroit? Mais l'aspect peut-être que j'ai omis d'aborder dans la discussion sur lui, c'est que je me posais la question l'an passé. Il vient d'avoir 24 ans, là, au mois de mars dernier. Tu te rappelles du printemps à Lac, Carey Price avait 23 ans. Je dis pas que les difficultés de l'un sont liées à celles de l'autre, mais comme quoi il y a moyen de se relancer ou d'atteindre son plus haut niveau à ce moment-là. Et tu cites quelques exemples. Il y en a des gars qui, en tout cas en termes de production offensive, ont vraiment explosé, alors que dans certains cas, on ne s'y attendait plus. Parle à Columbus de William Carlson, qui est rendu à Vegas notamment, puis tu as d'autres noms dans ton papier.
Oui, exact. Ben écoute, l'année dernière, il y a trois cas qui m'ont vraiment frappé, des gars qui ont vraiment augmenté leur production offensive de manière significative par rapport aux années précédentes. Thomas Hertel, qui a 25 ans, sa cinquième saison, lui, écoute, il a augmenté son total de points, son sommet de points de 61% par rapport à sa meilleure saison avant ça. Ça a été un peu la même chose dans le cas de Elias Lindholm, qui lui en était rendu à sa sixième saison. Il y avait eu un échange qu'il avait fait passer à Calgary. Changement de position également. Puis Mika Zibanejad avec les Rangers de New York, une équipe en reconstruction, mais lui, il a vraiment saisi sa chance de devenir le premier centre de cette équipe-là. Il en était rendu à sa septième année. Alors Drouin, lui, il est à 24 ans. Il va commencer sa cinquième année. Alors, on peut pas non plus se dire, ben là, de toute façon, il est ce qu'il est, puis on peut plus rien changer à Jonathan Drouin. Il a les instruments pour pouvoir passer à l'autre niveau puis faire comme ce que ces gars-là ont fait. Maintenant, ça lui appartient complètement. Là.
Quelques-unes en rafale, puis je reprends exactement les questions que tu as utilisées. Kotkaniemi, à quel genre de bon peut-on s'attendre à sa deuxième saison en termes de production?
Ouais, ben écoute, les centres qui arrivent dans la Ligue à 18 ans, et qui reviennent évidemment dans leur saison de 19 ans, faut pas s'attendre à ce qu'ils vont tous doubler leur production. Alors moi, j'inviterais les gens à calmer leurs attentes justement au point de vue production offensive. C'est souvent en troisième année que les jeunes joueurs de 18 ans s'imposent comme des vedettes. Mais écoute, on pourrait très bien s'attendre à le voir au moins arriver là autour de 45 à 50 points cette saison, si tout va bien. Puis je te dirais que si jamais il se fait placer sur le trio avec Max Domi est renvoyé à l'aile, puis qu'on lui donne le centre du deuxième trio, ben à ce moment-là, il risque d'avoir un peu plus de gains au niveau de la production offensive.
Et tu as plusieurs exemples, tableaux à l'appui, où on voit des gars qui ont vraiment mieux performé, mieux produit à leur deuxième année, mais il y en a d'autres. Barkov avait juste 7 centièmes de plus de production offensive à l'an 2. Ishier, 0,05. Nolan Patrick, 0,02. Couturier n'a pas fait mieux à sa deuxième année, comme Sam Gagné, Jordan Stahl et Nugent Hopkins. Fort intéressant, fort bien documenté. D'ailleurs, le même exercice avec Lekkonen. Il y en a qui aiment penser que c'est un marqueur de 20 buts. Là. Moi, en tout cas, est-ce qu'il pourrait prouver ça cette année?
Ben, moi, je pense que oui. Écoute, Lekkonen, quand il a été repêché d'abord et avant tout parce que c'était un marqueur. C'est un gars qui était chenu, comme on dit en bon français. C'est un freluquet. Il venait de revenir de deux commotions cérébrales. Mais ce que les gens aimaient chez lui, c'était sa touche de marqueur qu'il avait montré en Finlande. Sauf que là, c'est ça, il est un peu dans la même situation que Drouin. Même âge, 24 ans, lui, il commence sa quatrième année. Et puis, mais sauf qu'il n'est pas non plus trop tard. 20 buts, c'est pas un plateau énorme à atteindre non plus. Mais tu sais, Lekkonen, c'est des gens qui imaginaient qu'elle allait devenir un allié top 6 pour le Canadien. Je pense que ça, c'est un peu plus ambitieux. Mais de le voir contribuer, disons, à 20 buts, 50 points, je pense que c'est pas exclu. Peut-être pas nécessairement pour cette année, mais en cours de route, parce que, écoute, à l'heure actuelle, là, si on. Là, pour l'instant, il a marqué 80 points en 221 matchs depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Puis si tu regardes les gars dans la Ligue en ce moment, dont la fiche s'apparentait le plus à la tienne après le même nombre de matchs, ben, tu as mentionné William Carlson tantôt, c'en est un, Brandon Sutter, Antoine Roussel, Nino Niederreiter, des gars comme ça. Tu sais, moi, j'aimerais bien que finalement, la production de Lekkonen ressemble à celle de William Carlton ou de Nino Niederreiter. Mais là, pour l'instant, ça va être une année très importante pour Lekkonen. Il a signé un contrat qui est relativement à court terme. Je pense que c'est pour prouver qu'il y a un peu plus d'offensive en lui, mais ça va être à lui de démontrer parce que c'est des années charnières pour Lekkonen.
Tu poses une fichue bonne question que je me pose moi aussi sur Max Domi. Est-ce qu'il peut faire mieux ou aussi bien que l'an passé? C'est pas rien là, ce qu'il a offert l'an passé. 28 buts, 72 points. J'en connais pas bien qui ont prédit ça en début d'année. Il semble que lui et ses agents sont pas pressés de négocier un nouveau contrat. Donc, ça témoigne d'une certaine confiance à faire mieux en 2019-2020. Peut-il faire mieux?
Ben, écoute, peut-il faire mieux? Moi, je mettrais pas 5 piastres sur ses 28 buts, ça c'est sûr. 72 points, écoute, il pourrait probablement en chercher encore un peu plus. Je serais curieux de voir dans quelle mesure c'est le fait d'avoir joué au centre sur une base régulière qui lui a permis d'aller chercher ces points-là. Domi, quand il est arrivé à Montréal, ce qu'on entendait de l'Arizona, c'est qu'il préférait jouer à l'aile que de jouer au centre. Mais il a fait comme Drouin l'avait fait l'année passée, c'est « Vous voulez me faire jouer au centre? »« Correct, je vais jouer au centre. » Je vais me faire, m'en faire le travail. Mais il a vraiment fait le travail. Ça a été une belle surprise pour le Canadien. Mais en même temps, je regarde les gestes qui ont été posés ou les signes qui ont été envoyés par Marc Bergevin durant l'été, que ce soit de faire de l'œil à Matt Duchesne, de soumettre une offre hostile à Sébastien Aho, c'est des joueurs de centre. Tu te dis, ouais, un instant, là, s'ils veulent attirer ces gars-là à Montréal, c'est peut-être parce qu'ils ont dans l'esprit, éventuellement, de renvoyer Max Domi à l'aile. Fait que ça, je pense que ça va être un dossier à suivre. Mm-hmm. Personnellement, je crois que 72 points comme l'année passée, c'est tout à fait possible. Et puis, tu mentionnes les négociations pour son prochain contrat. Un joueur de centre qui fait 70-75 points dans la Ligue nationale, qui est à la mi-vingtaine, il pourrait vraiment ramasser le gros lot. Fait que lui, il doit regarder les jeunes là, qui attendent leur deuxième contrat puis se disent, bon, ben let's go, amenez-en de l'inflation. Moi, je vais passer à la caisse l'année prochaine.
Autour de, mettons, 6-7 par année, Jean?
Au moins 7. Je te dirais entre 7 et 8.
Fait que si tu le signes à long terme, mettons 5 ans minimum, c'est un gros contrat, là.
Oui, absolument. Puis tu sais, de plus en plus, il y a des contrats à moyen terme parce qu'il y a des joueurs qui se disent depuis Austin Matthews, des joueurs se disent je vais être capable d'aller chercher un autre gros contrat à la fin de celui-là. Fait que j'irai peut-être pas jusqu'à la fin de mes années productives. Je sais pas si Domi va faire ce calcul-là quand il va avoir atteint 26 ans. Mais probablement qu'il va te dire, ben moi, je vais essayer d'aller chercher le contrat le plus long possible. Mais peu importe la durée du contrat, je le vois pas, à moins qu'il s'effondre au plan statistique, là, mais s'il devait garder le cap comme il l'a fait l'année dernière, je le vois pas en bas de 7 millions par année.
Peu de temps après la mise sous contrat par le Lightning de Tampa Bay de Patrick Maroon, un attaquant de 6 pieds 3, 225 livres, qui a eu son mot à dire dans la conquête de la Coupe par les Blues de Saint-Louis. Un journaliste collègue à toi, Athletic.com, s'est posé la question qu'on se pose, je pense, assez régulièrement, qu'on a tenté de décortiquer au fil des ans. Mais ça, c'est tout un travail qu'il a fait en analysant les gagnants de la Coupe Stanley, finalistes des 10 dernières années. Est-ce que le gabarit des joueurs compte pour une équipe qui espère gagner? En tout cas, Tampa Bay n'ont pas tourné le dos à l'opportunité de se grossir au moins un peu. Marc-Antoine, tu me le permets, j'aimerais ça que tu m'en parles, que tu me donnes ton opinion, qu'on réfère à l'article en question au retour des messages.